I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut, c'est Hugo Gaston. Bienvenue dans Échange, le podcast du tennis.
La première fois que je l'ai vu, c'était à la télé un dimanche soir du mois de septembre, comme plus de 5 millions d'autres Français. Bien sûr, j'avais entendu parler de lui, mais c'est la première fois que je le voyais jouer. Et son tennis m'a plu comme à tout le monde. Il pousse Dominic Thiem en 5-7 sur terre battue à Roland-Garros, un exploit. Il en a accompli un autre, peut-être plus important en rendant le tennis accessible et disponible pour tous. On enregistre encore à distance, souhaitons que ce soit la dernière fois en 2021. Je m'appelle Antoine Beneteau, bienvenue dans Échange.
Salut Hugo, est-ce qu'on se vouvoie ou on se tutoie ?
Salut, on peut se tutoyer.
Bon, je suis très heureux d'avoir un jeune dans mon émission. J'ai eu aussi Félix Auger-Aliassime, mais t'es l'un des plus jeunes dans mon émission. Forcément, on se connaît un petit peu moins, car on ne fait pas partie de la même génération. Mais du coup, ça tombe bien, car je vais vraiment apprendre à te connaître. J'ai fait quelques recherches. Tu es Toulousain, tu es né en 2000. Mais comment était l'enfance d'Hugo Gaston ?
Alors, déjà, très content d'être ici avec toi. Écoute, alors, mon enfance, j'ai commencé le tennis à l'âge de 2-3 ans au tennis club de Fonsorbe, là où j'habite. Parce qu'en fait, mon père est président du club. Et j'allais tout le temps au club avec lui et j'avais toujours une raquette dans les mains. Et j'essayais toujours de trouver quelqu'un pour jouer avec moi. Je jouais avec le mur, avec tous les adhérents du club. Et puis au fur et à mesure, j'ai grandi et j'ai été pris par le département, au GAD, ça s'appelait, je crois, au GAD. Mmh. Et puis pareil, ça a fait un peu un processus fédéral. Ensuite, j'ai rejoint la Ligue, donc Midi-Pyrénées à l'époque et maintenant Occitanie. Après, à 12 ans, j'ai intégré Poitiers pendant 2 ans. Donc de 12 à 14. Et de 14 à 16, je suis parti à l'INSEP pendant 2 ans aussi.
Okay.
Et depuis 3-4 ans, je suis rentré sur Toulouse avec l'entraîneur que j'avais avant de partir à Poitiers.
Avec Marc Barbier, on y reviendra un tout petit peu plus tard. Tu as toujours voulu faire du tennis ?
Ouais, j'ai toujours été dans ça. J'ai toujours fait que du tennis. J'ai jamais pratiqué d'autres sports. Puis je m'éclate, donc c'est cool.
Qu'est-ce qui a été dur dans le fait de partir si tôt de chez toi ?
Forcément de ne pas voir ses parents, sa famille, ses amis aussi. Voilà, on est jeune, ça demande déjà pas mal de sacrifices. Mais voilà, j'avais la chance d'être avec de bons gars, un bon groupe. Donc il y avait vraiment une superbe ambiance et puis on se tirait vers le haut. Donc au final, ça s'est très vite, très bien passé à Poitiers et voilà, c'était de super souvenirs pour moi.
C'était qui les joueurs avec qui tu étais à Poitiers, ta génération ?
Alors j'étais avec Hugo Humbert. Après il y avait en 98 il y avait Constant de la Bassetière. Il y avait ma génération, il y avait Tabur, Angèle, Delcourt, Yakovlev. Voilà, on a tous pris des routes différentes. Voilà, on est encore en contact, on est encore tous bons potes. Mais voilà, c'est aussi sympa de voir la progression de chacun.
Il y a bien sûr le tennis à cette époque-là, mais il y a aussi l'école. Il était comment l'élève Hugo Gaston ?
En fait, à Poitiers, donc, on était forcément par correspondance, donc au CNED. C'était vraiment très bien aménagé pour qu'on puisse suivre les deux, justement. Après, je n'ai jamais été un grand élève, mais voilà, j'ai fait ce qu'on me demandait. Après, forcément, plus on grandit, plus mon projet a pris de la grandeur et de la grosseur dans ma vie, on va dire. Donc voilà, j'ai dû prendre une décision. Ma dernière année junior, il y avait vraiment beaucoup de boulot à faire et j'ai décidé de ne pas passer le bac cette année-là parce que je voulais justement pas me prendre la tête avec l'école et vraiment profiter un max. Puis en fait, après, au fur et à mesure, j'ai continué ma progression et je me suis jamais dit, on va passer le bac l'année d'après. Parce que voilà, il y a des tournages chaque semaine, et puis voilà, et puis il y a aussi mes parents qui m'ont laissé le choix de faire ça. Donc voilà, mais je faisais ce qu'on me demandait, quoi.
Ok. Tu as parlé de ton projet qui devait être fort assez jeune. Je suis passé aussi par là. Comment ta famille a soutenu ce projet-là?
Ben justement, ils étaient vraiment derrière moi. Ils m'ont pas mis de pression, même encore aujourd'hui, ils mettent pas de pression. Ils me laissent profiter. Ils voient que je m'éclate sur le terrain, et pour eux, c'est le plus important. Mais ils ont toujours été à leur place. Ils m'ont forcément aidé, parce que quand on est jeune, on sait pas tout, même quand on est moins jeune. Mais voilà, ils ont toujours été derrière moi pour me donner des conseils, et c'était important pour moi.
Tu avais commencé à en parler de ton coach, de ta collaboration avec Marc Barbier, qui est toujours ton coach. Ça a commencé à quel âge cette collaboration?
Ça a commencé, j'avais 6-7 ans. En fait, c'est lui qui m'a. Il a travaillé avec la Ligue, et c'est lui qui m'a repéré, en fait, sur un tournoi, dans un club. Et puis voilà, c'est parti de là. Au fur et à mesure, il m'a entraîné de plus en plus. Donc, il m'a entraîné vraiment à partir de 9 jusqu'à 12 ans, jusqu'à que je parte à Poitiers. Et quand je suis revenu de l'INSEP, on a repris la collaboration. Et puis voilà, ça se passe vraiment très bien, avec aussi mon entraîneur physique qui s'appelle Kevin Blandy. Pareil, je l'avais un petit peu avant de partir à Poitiers. Bon, physique, c'était un bien grand mot, mais voilà, il s'occupait déjà de moi un petit peu. Et depuis mon retour de l'INSEP, pareil, donc on n'a pas perdu de temps, et c'est vraiment une belle équipe, quoi.
Comment tu la définirais, cette relation avec, notamment avec Marc?
C'est important, parce que Marc, on se voit tous les jours, enfin on se voit tout le temps, donc forcément faut qu'il y ait une bonne entente. Puis voilà, il me connaît très bien, moi je le connais très bien aussi, donc voilà, des fois on n'a pas forcément besoin de parler pour savoir ce que l'autre pense. Donc voilà, après, il sait ce que j'aime, il sait ce que j'aime pas, mais voilà, ça fait partie des trucs. Des fois on n'est pas d'accord, on s'embrouille, mais voilà, comme toute relation. Mais voilà, c'est vraiment une personne que j'apprécie beaucoup, parce que à 6-7 ans, on ne sait pas trop quelle personne, quel joueur je vais être. Mais voilà, si j'en suis là aujourd'hui, c'est aussi grâce à lui. Donc voilà, c'est cool, et j'espère que ça va continuer.
Tu parles d'embrouille, on a du mal à t'imaginer t'énerver.
Ouais, je peux être dur aussi. Voilà, on peut ne pas être d'accord. C'est tout à fait normal. On peut avoir des points de vue, mais ouais, ça m'arrive de m'embrouiller. Même si l'épisode Roland-Garros, on va dire, vraiment tout était parfait pour moi, on va dire. Voilà, c'est un travail pour moi. J'essaie de m'améliorer chaque jour. Et voilà, c'est un axe d'amélioration.
On va bien sûr revenir sur l'épisode de Roland-Garros un peu plus tard. C'est avec Marc que tu as développé un jeu aussi varié. C'est lui, c'est sa patte ou c'est toi, c'est ton ADN?
Non, j'ai toujours joué comme ça. Voilà, et après forcément, on a continué à le travailler. Mais ça a toujours fait partie de mon jeu, faire pas mal d'amortis, beaucoup varié. Depuis toujours, je fais ça. J'ai toujours été un joueur sur le terrain, et encore aujourd'hui, voilà. Après, il faut pas non plus que j'en abuse.
T'es aussi joueur en dehors?
Ouais, j'adore tout ce qui est jeu, défi. Enfin, moi, c'est aussi pour ça que je m'éclate sur le terrain, parce que c'est avant tout un jeu pour moi, donc j'essaie de m'amuser un maximum.
Tu as commencé à évoquer ton parcours chez les jeunes avec ce parcours qu'on peut dire fédéral de A à Z. Je veux dire fédéral parce que bien sûr tu es passé par les Pôles France, mais ça fait aussi partie de la Fédération française de tennis que de travailler dans les clubs, dans les ligues, dans les départements. Donc tu es passé par là. Tu as eu des très bons résultats chez les juniors, avec notamment cette victoire aux Jeux olympiques de la jeunesse, et tu finis à la deuxième place mondiale. Comment tu as vécu cette période-là, j'ai envie de dire, de formation où tu as eu aussi beaucoup de succès?
Vraiment, on l'a très bien géré, que ce soit avec Marc justement, parce que on a décidé de jouer les juniors jusqu'à la fin. Souvent, on voit qu'il y a des juniors qui jouent pas forcément leur dernière année ou quoi, et nous, on a décidé d'aller jusqu'au bout, parce que justement, en termes de formation et d'expérience, ça m'a aussi aidé pour la suite. Jouer en grand chelem en junior, mine de rien, ça fait quand même quelque chose. C'est toujours sympa. Et quand je suis arrivé sur mon premier Roland en qualif, quand j'ai une invitation, je pense que si j'avais pas fait les juniors ou les grands chelems, je serais pas venu de la même façon. Ça m'a beaucoup aidé, parce qu'il y a un stress supplémentaire, forcément. Mais encore une fois, ça m'a vraiment aidé. Après, c'est pas parce que j'ai fini numéro 2 mondial que voilà, je vais y arriver ou quoi. Je sais que c'est compliqué, mais pour moi, c'était vraiment bien de faire ça jusqu'au bout pour passer chez les seniors après.
Si tu fais les transitions à ma place, tu vas prendre mon métier, parce que tu as commencé à évoquer Roland-Garros. Tu as évoqué les qualifs. Comment ça s'était passé, ces qualifications à Roland-Garros, ces premières qualifs?
Ben, ça s'était bien passé. J'avais perdu au premier tour contre un Estonien qui s'appelle Zop. J'avais perdu en 3-7, 6-2 ou 6-3 au troisième. Mais voilà, c'était vraiment un super match pour moi. Et après, j'ai regardé un peu ce que mon adversaire a fait. Et il a passé le deuxième tour, le troisième tour. Et au final, il a perdu au troisième tour du tableau principal. Donc ben, ça m'a aussi montré que j'étais vraiment pas loin de ce genre de joueur. Donc pour moi c'était top, voilà, ça m'a montré que j'avais aussi le niveau. Donc ça m'a aidé. Et puis ensuite je suis parti donc sur les futurs. J'ai commencé à en gagner un, à faire plusieurs finales, et à partir de là, j'étais vraiment très régulier dans mes résultats en futur, et j'ai eu le classement pour commencer les challengers, on va dire. Et puis voilà, là je suis toujours au niveau des challengers, et voilà, c'est un circuit ben, qui est compliqué parce qu'il y a de très bons joueurs. Mais voilà, c'est à moi d'être bon pour passer ce niveau-là.
À qui le dis-tu? J'en sais quelque chose puisque je n'ai pas passé ce niveau-là. Toi, Hugo, tu parles de Roland-Garros. Moi, je sais quand je suis allé jouer les championnats de France dans les catégories plus jeunes à Roland-Garros. Parfois, il m'arrivait, je sais pas, d'aller sur le cours Philippe Chatrier et puis de rêver, de m'imaginer. Est-ce que toi, tu as fait des choses comme ça? Est-ce que l'enfant Hugo Gaston rêvait quand il arrivait à Roland-Garros?
Ouais, forcément, bah, pareil, à mon âge, moi, j'ai gagné le championnat de France, 14 ans à Roland-Garros, justement. Forcément, quand on voit le Suzanne Lenglen ou le Philippe Chatrier juste à côté, bon, on se dit, bon, on a envie d'y jouer. Et j'ai eu la chance cette année de jouer sur ces deux terrains, mais forcément, pour moi, quand j'étais tout petit, bah, pour moi, c'était un rêve de jouer à Roland-Garros. Et puis voilà, maintenant, c'est plus des objectifs parce que je sais que j'en suis capable. Mais encore une fois, c'est compliqué, donc il faut s'entraîner dur pour avoir la chance de jouer sur ce genre de cours, quoi.
Roland-Garros, allez, on y va, parce que les gens qui nous écoutent, je pense, ont envie de t'entendre là-dessus. Victoire contre Maxime Janvier au premier tour, au deuxième tour contre Nishioka, et puis Stan Wawrinka se présente au troisième tour. Ce qui a été frappant, c'est la facilité avec laquelle tu as augmenté ton niveau de jeu. J'ai regardé tes matchs, tu bats Maxime Janvier, déjà ça n'a pas dû être facile, un premier tour entre Français.
C'était vraiment compliqué parce qu'en plus j'ai joué contre Maxime 2 semaines avant au Challenger d'Aix-en-Provence, et j'avais gagné. Je savais qu'à Roland ça allait pas être du tout le même match. Voilà, je suis rentré sur le terrain, ben forcément il y avait de la tension, mais je me disais voilà, c'est un joueur comme un autre. Certes, il a une invitation, donc c'est un meilleur tirage entre guillemets, mais voilà, il y a beaucoup de pression parce que ben, forcément derrière il y a les points qui peuvent me permettre de rentrer dans certains tournois. Mine de rien, il y a de l'argent aussi, ce qui est aussi important pour financer ben, sa carrière.
Sûr.
Donc forcément, je rentre sur le terrain un petit peu tendu, mais voilà, en me disant que ben, il y a 2 semaines, je l'ai battu, ça va être un autre match, mais voilà, m'appuyer sur ma victoire et jouer mon tennis parce que je joue vraiment bien en ce moment-là. Donc voilà, j'ai réussi à gagner en 3-7. C'était un match assez compliqué, mais j'étais très content de m'en être sorti. Et après, forcément, jouer contre Nishioka, qui était 40 ou 50e mondial, pour moi, j'avais rien à perdre, entre guillemets, mais je savais aussi que je pouvais battre ce genre de joueur. Donc je suis rentré là en me disant que c'est possible, qu'il faut que je donne le max, on verra bien le résultat. Et au final, je gagne les 2 premiers sets,
Ouais.
perds le troisième, et puis après, j'arrive à m'en sortir au quatrième, mais voilà, j'ai pas pensé à la victoire. J'étais vraiment dans mon match et essayer de contrôler ce que je pouvais, quoi.
Ouais, surtout que Nishioka, japonais, gaucher, petit gabarit qui court partout, un profil un peu similaire au tien. Tu t'en sors en 4-7, effectivement. Et puis Stan Wawrinka sur le court, Suzanne Lenglen, qui, je le disais, se présente au troisième tour. Est-ce que tu te savais capable de hausser autant ton niveau de jeu ou est-ce que tu as été surpris?
Je savais que j'étais capable de très bien jouer. Là où je me suis moi-même surpris, on va dire, c'était plus sur la constance que j'ai eue tout au long du match.
D'accord.
J'ai fait un bon match ben, du début à la fin, même si le premier set était assez compliqué. Voilà, ben, Stan, il frappe très fort, donc c'est un joueur dur à bouger. En plus, sur un grand terrain, les repères, j'ai pas les mêmes repères que Stan. Donc c'était assez compliqué, mais voilà, j'ai su bien commencer le deuxième set et ça m'a mis dans le match. Et à partir de là, ben voilà, j'ai essayé de jouer mon jeu, prendre un max de plaisir et tout donner. Je savais que j'avais les capacités pour le gêner. Après, le gagner, pas forcément, mais voilà, j'y ai toujours cru et c'est aussi ce qui m'a permis de gagner.
Tu gagnes, j'ai envie de dire, on sent que Stan perd un petit peu pied. On sent que tu lui poses des problèmes, que tu le. Bien sûr, on a parlé énormément des amortis, on a parlé de, voilà, de ce calme, mais on sent que tu arrives à dérouter tes adversaires. Est-ce que c'est quelque chose que tu arrives à faire aussi? Quand tu joues contre d'autres joueurs, ou là, ça faisait vraiment partie d'une tactique en te disant, ben voilà, je joue contre Stan Wawrinka en grand chelem au meilleur des cinq manches. Voilà, il va falloir que je fasse quelque chose d'autre, ou c'est quelque chose que tu fais tout au long de la saison?
Non, c'est quelque chose que j'essaie de faire. Après, ben, des fois, c'est moins efficace, forcément, mais ben, ça fait partie aussi de mon jeu. Je sais que j'ai quand même un jeu ben, assez embêtant, on va dire, assez atypique. Et voilà, ça a toujours été dans moi. Comme je l'ai dit, des fois, ça fonctionne bien et des fois, ben, moins bien. Mais voilà, je me suis pas dit, ouais, c'est contre Stan, donc faut que tu adoptes une tactique. J'essayais justement de rester moi-même. Pour gagner. Et encore une fois, là où j'ai été le plus surpris, c'est plus sur ma constance tout au long du match, quoi.
C'était une constance mentale aussi physique, j'imagine.
Ouais, ben, forcément beaucoup mental et physique parce que ben, je savais pas ce que c'était les matchs en 5-7. Donc on n'a pas de repères, je sais pas trop où me situer. Mais je l'ai vraiment très bien vécu physiquement. Je me sentais prêt avant le tournoi, donc je savais que sur ce plan-là, j'étais pas vraiment. Enfin, il n'y avait pas d'inquiétude à avoir. Et sur le plan mental, voilà, tenir autant et aussi longtemps contre un joueur contre Stan, c'est vraiment super. Voilà, je savais pas vraiment que j'en étais capable, mais encore une fois, ça montre que c'est possible et que j'ai le niveau aussi. Donc ça donne envie de faire encore plus, quoi.
Et puis arrive le match contre Dominic Thiem sur le court Philippe Châtrier, défi encore plus grand. Je crois qu'il y a quelque chose qui a séduit les Français, c'est ton attitude. Je dis séduit les Français parce qu'il faut rappeler que tu as réuni plus de 5 millions de personnes le dimanche soir sur France Télé. Et j'en faisais partie. Donc oui, je disais, il y a quelque chose qui a séduit les Français, c'est ton attitude. On te sentait déterminé, mais jamais dans l'euphorie, alors qu'il pouvait y avoir de quoi. Rassure-moi, en toi, ça bouillait.
Ben franchement, pas tant que ça. Parce
C'est
qu'en
dingue.
fait, je me suis dit, j'étais encore frais, c'est un bien grand mot, mais je me sentais encore bien physiquement. Et je me suis dit, ben, toute l'énergie que j'ai, ben, il faut que je la mette sur le terrain et pas à crier n'importe où ou à sauter n'importe où. Donc voilà, j'ai concentré toute mon énergie sur le terrain et ça a bien marché malgré la défaite. Parce que je sors de là vraiment, par contre, en étant rincé, mais en étant aussi fier parce que j'ai tout donné. J'ai pas de regrets en sortant de là. Et encore une fois, comme j'ai dit, ça montre que ben, ce genre de joueur. Ben, ça joue sur des détails, quoi. Donc ça donne envie de faire encore plus. Après, forcément, des fois, ça boue à l'intérieur, mais j'essaie de pas le montrer pour être le plus lucide possible.
Bon, on a envie un peu de rentrer dans les détails de ce match. Est-ce que tu peux nous raconter comment ce match s'est déroulé, comment ça a évolué dans ta tête?
Ouais, ben je perds le. Déjà, on a commencé le match à l'extérieur. Enfin, le toit était ouvert. Il y avait beaucoup de vent, donc c'était vraiment dur de s'adapter. Après, à 3-2 ou 4-3, je ne me souviens plus, on est rentré parce qu'il a plu. Et pendant 10 minutes, il y a une coupure. Et on a joué avec le toit à partir de ce moment-là. Et voilà, bah, Dominique a très bien servi pendant vraiment deux sets. Il a été très peu inquiété. Il faisait vraiment bah, de super jeux de service, donc je n'avais pas grand-chose à dire. Je suis à 2-7-0, ben, je me dis, de toute façon, autant y aller, profiter, essayer de t'éclater parce que ben, tu n'as plus rien à perdre. Et à partir de là, j'ai commencé à encore plus me libérer. C'était de mieux en mieux. J'ai commencé à l'embêter. Et puis voilà, j'ai eu une balle de break, j'ai su la saisir. Et à partir de là, moi, ben, ça m'a encore plus relâché. Je me suis dit, ben, continue, éclate-toi, enfin, prends un max de plaisir. Mais lui, il a commencé, je pense, un peu à cogiter parce qu'il a vu que je tenais bon. Et voilà, après j'ai essayé aussi de m'aider du public, même si la jauge n'était pas complète, il y avait quand même un petit peu de monde et ils m'ont beaucoup soutenu. Donc vraiment, c'était ben, un super match. À aucun moment, je me suis dit, t'as perdu à 2-7-0. Je me suis toujours dit, ben, donne le max, on verra bien, quitte à prendre 3-7, mais voilà, donne tout. Et au final, je gagne le troisième et je continue pareil sur le quatrième set. Mmh. J'arrive à m'en sortir en gagnant un jeu de service à lui, donc en gardant mon break. Et au cinquième, j'ai des occasions. J'en ai une ou deux et je ne la fais pas forcément ou quoi. Mais voilà, après, il a fait un très bon cinquième set. Moi aussi, on a eu vraiment un bon niveau de jeu. Donc voilà, c'était vraiment ben, un super combat. Je sors de là en me disant, bon, c'est super ce que j'ai fait, mais forcément, je suis un compétiteur, donc il y avait forcément la victoire et j'étais proche. Donc forcément, il y avait une micro-déception, on va dire, mais voilà, c'est vite passé parce que j'étais très content de ce que j'ai fait.
Est-ce que tu as senti une différence entre les frappes de Stan et les frappes de Dominique?
Pas tant que ça. Je trouve que Dominique, il lifte plus, donc ça va gicler un petit peu plus. Stan, c'est plus à plat, plus lourd. Mais franchement, bah, c'est deux joueurs qui frappent super fort. Et voilà, j'ai su m'appuyer sur leur vitesse de balle. Mais voilà, c'est un jeu quand même assez similaire, on va dire. Et voilà, j'ai eu la chance de jouer contre Stan qui a gagné plusieurs grands chelems et Dominique qui a gagné l'US Open juste avant. Donc, c'était de super expériences pour moi.
La France te rencontre le dimanche 4 octobre en soirée. Elle avait eu un bon aperçu au tour précédent lors de ta victoire contre Stan. Mais là, il y a quasi, je le disais aussi, 6 millions de personnes qui te découvrent et qui t'adorent. Tu es très disponible pour les médias et je t'en remercie car tu as répondu à mon invitation. Mais est-ce que tu as été fatigué à un moment donné après ce Roland-Garros?
Oui, j'ai été fatigué. Voilà. Après, les médias, ça fait aussi partie de notre carrière. C'est des choses obligatoires, entre guillemets, parce que rien n'est obligatoire. Mais voilà, ça fait partie du truc et c'est des choses où je prends du plaisir à le faire. Après, il ne faut pas trop se perdre dans ça aussi parce que voilà, ça use beaucoup d'énergie. J'ai consacré les médias pendant une semaine après Roland où j'ai coupé. Et au final, c'était une semaine de récup à la base. Et je suis sorti de la semaine, j'étais rincé parce que ça fatigue, mine de rien. D'avoir des médias tous les jours ou quoi, c'est super pour moi, forcément. Mais voilà, mentalement, ça fatigue vraiment. Mais voilà, j'ai pris vraiment du plaisir à le faire et j'ai fait des trucs sympas. Donc c'était de belles expériences aussi.
Dans ces trucs sympas, j'ai vu que tu avais remis un prix aux Energy Music Awards, j'ai vu que tu avais participé à l'émission Quotidien. Tu as dépassé la planète tennis pendant ce moment-là. Est-ce que tu as pris du plaisir?
Ouais, c'est des choses qui ont été sympas à vivre, c'est de belles expériences. Voilà, quand j'ai remis un prix aux Energy Music Awards, j'étais pas vraiment dans mon univers, on va dire. Là, je voyais des célébrités, j'étais là, je savais pas trop où aller. Mais non, c'est sympa de voir un petit peu après. Après voilà, on a plutôt bien géré ça avec mon équipe pour pas non plus se perdre dans tout ça. Mais voilà, c'était des choses sympas à faire, ouais.
J'ai oublié de te poser une question sur Roland Garros. Est-ce que tu crois que l'absence du public t'a aidé, t'a freiné ou que tu aurais pu encore faire mieux?
Non, je dirais que ça m'a un petit peu aidé quand même.
Okay.
Même si forcément j'aurais aimé qu'il y ait du public, hein, mais voilà, je pense que ça lève une petite pression, on va dire. On se dit, au lieu de jouer dans un stade où il y a 25 000 personnes, s'il n'y a que 1 000 personnes, c'est déjà beaucoup, on va dire. Et pour moi, je pense que ça m'a quand même aidé. Après, forcément, j'aurais aimé contre Dominique que le stade soit plein en 5e set, mais bon, voilà, on a quand même eu la chance d'avoir du public. Et les spectateurs ont fait beaucoup de bruit et c'était vraiment un bon moment.
Comment c'est de revenir sur le circuit Challenger un petit peu plus anonyme?
Je l'ai très bien vécu. J'ai fait mon tournoi de reprise à Hambourg, ouais, sur un Challenger. Et en fait, j'étais en qualif parce que mon classement, c'était le classement d'avant Roland. Donc, ça ne me permettait pas d'entrer dans le tableau. Et j'ai eu des matchs compliqués dès mon premier tour qualif. Que je m'arrache. J'ai gagné mon premier tour qualif en 2h30 et le deuxième tour de qualif en pareil 2h30, 3h. Enfin voilà, c'était un super combat. Puis voilà, de toute façon, il n'y a pas de match simple et c'était tout le temps des matchs très, très disputés. Et voilà, ça a moi aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, de passer ce niveau-là pour avoir la chance de jouer Roland-Garros ou tous les gros tournois sans invitation.
Et aujourd'hui, tu es 161e à l'ATP. J'imagine que l'objectif est de rentrer le plus rapidement possible dans les 100. Sur quoi tu travailles là pour y arriver ?
Sur ma constance tout au long d'une saison. Dans un match, par exemple, on peut avoir des petits passages à vide. Voilà, j'essaie de les gommer au maximum. Et on voit de toute façon que les tout meilleurs, y a pas de trou d'air. Ils ont toujours un très bon niveau. Et tenir sur toute une saison un très bon niveau, c'est compliqué. Donc voilà, je travaille sur ça et je dois encore progresser. Mais ça va le faire.
J'aime bien reprendre les questions parfois des internautes sur Twitter, sur Instagram. Il y a une question de Tennisissimo, qui doit bien aimer le tennis. Il m'a demandé de te poser la question. Qu'est-ce que tu as le plus travaillé pendant cette période hivernale ?
J'ai travaillé beaucoup mon physique parce que c'est aussi le moment. On s'accordait une semaine à la montagne. On a touché la raquette deux fois pour justement faire un travail foncier. On a un peu tout travaillé, vraiment. On a passé beaucoup de temps sur le terrain, beaucoup de temps en salle. Moi, j'ai fait une préparation de 7 semaines, donc c'est vraiment, vraiment long parce que voilà, je m'étais mis dans la tête qu'il fallait qu'on parte en Australie mi-décembre, donc on a commencé plus tôt. Et au final, ça a repoussé. Mais j'ai travaillé beaucoup mon physique et même mon tennis, quoi, parce que c'est des choses qui sont importantes à faire. Mais c'est pas là où moi je m'éclate le plus, on va dire. Mais c'est des bons moments quand même. Ouais.
Physiquement, tu travailles. Est-ce que tu essaies, il y a du ludique dedans ou c'est des longs footings, des longues séances sur les pistes c'est, comment ça se passe ?
Y a les deux. Okay. Moi je suis un joueur comme j'ai dit, donc forcément je préférerais travailler mon cardio en faisant que des sports co, des trucs comme ça, mais voilà, on progresse aussi en faisant de la piste. On a fait de tout, comme j'ai dit, je suis parti à la montagne, on allait faire des randos, enfin vraiment on a fait un peu de tout, on a même fait de la natation et moi quand on fait d'autres activités, je m'éclate. Et c'était vraiment de bons moments malgré la difficulté. Voilà, j'avais aussi des potes avec moi, donc forcément on se tirait la bourre. Mais non, c'était de bons moments.
Une question de Christophe qui me pose la question suivante. Certaines personnes, donc il parle à la première personne, certaines personnes dont je ne fais pas partie disent que sur une autre surface que la terre battue, ton tennis pourrait moins bien s'exprimer avec un peu moins de puissance et moins de possibilités de faire des amortis. Qu'en penses-tu ?
Moi, c'est bizarre. J'ai grandi sur terre battue, mais avant sur Roland-Garros, on va dire que mes meilleurs résultats étaient sur dur, parce que j'ai un jeu qui s'adapte aussi sur dur. Je contre bien, je défends bien, et je suis aussi capable d'attaquer, donc j'ai la chance de pouvoir tout faire, on va dire. Mais aussi avoir la chance que mon jeu s'adapte un peu à toutes les surfaces. Mais c'est aussi à moi de montrer aux gens que je sais aussi jouer sur dur. Mais moi je sais que je joue très bien sur dur. Faut travailler. Et puis forcément, je ne vais pas avoir les mêmes schémas de jeu. Mais c'est une surface que j'aime aussi.
Tu es en pleine progression, tu n'as pas de temps à perdre et pourtant le circuit secondaire s'est un petit peu mis au ralenti avec la crise du Covid. Il doit y avoir de l'impatience. Comment tu arrives à gérer cette période ?
Je le gère plutôt bien, forcément, j'ai envie de reprendre les tournois, mais franchement, je le gère plutôt bien. Je reste assez cool parce que de toute façon, ça sert à rien de s'énerver ou quoi parce qu'on contrôle pas grand-chose là. Donc, c'est me servir de cette période pour m'entraîner et progresser sur les domaines dont j'ai besoin ou même les domaines où je suis à l'aise pour progresser.
Tu travailles sur le plan mental?
Ouais, j'ai commencé en début d'année dernière avec un prépa mental. C'est des choses qui m'aident, qui sont aussi importantes. Au début, pour moi, ça n'avait pas trop d'importance, mais voilà, de toute façon, plus on avance dans le classement et plus ça va se jouer sur des détails. Donc, c'est des choses qui sont importantes. Et puis, à l'heure d'aujourd'hui, voilà, ça m'aide. J'ai encore pas mal de travail à faire ou quoi, mais voilà, c'est des choses qui sont intéressantes à faire et ça fait du bien pour moi aussi. Donc, faut que je continue.
Sans révéler bien sûr tes secrets de fabrication et donner trop d'infos à tes futurs adversaires, mais est-ce qu'il y a un aspect dans la prépa mentale que tu utilises? Parce que je sais qu'il y a des fans de tennis et beaucoup de pratiquants de tennis qui nous écoutent. Quels outils tu peux utiliser justement dans cette prépa mentale?
Bon, on peut utiliser la respiration, c'est ce qui me vient en premier, voilà. Parce que la respiration, on le contrôle, donc c'est quelque chose de simple. Enfin, on peut imaginer que c'est simple, mais voilà, il y a plein de types de respiration, donc voilà, on peut se servir de ça. Moi, j'en fais beaucoup parce que voilà, ça m'aide aussi à me concentrer, à me calmer, aussi à être lucide pour faire mes choix, parce que voilà, c'est quelque chose d'important dans mon jeu d'être lucide pour faire les bons choix. Donc voilà, il y a la respiration, et puis voilà, pour moi, c'est le domaine le plus important, on va dire.
Tu es un jeune joueur, je le disais, tu as 20 ans, tu espères arriver dans le top 100 mondial, rejoindre la délégation des autres Français. Il y a Hugo Humbert. En fait, on connaît très bien la génération, puisqu'on a voilà, vécu avec, on connaît très bien la génération Gaël Monfils, Richard Gasquet, Joey Fritz-Songa, Gilles Simon. Mais est-ce que vous, la génération qui arrive, il y a de l'émulation, il y a de la solidarité? Comment ça se passe entre vous?
Ouais, on est enfin pour moi en tout cas, je m'entends vraiment bien avec tout le monde, même avec Gilles, Gaël, Joe, c'est vraiment des bons gars et ils me donnent aussi des conseils ou alors on parle quand on se voit. Après avec Hugo Humbert, forcément, j'étais avec lui à Poitiers, à l'INSEP aussi, donc voilà, on se connaît bien, on est bons potes. Et il y a aussi Corentin Moutet, voilà, c'est aussi un bon pote. Voilà, vraiment, moi de mon côté, je m'entends bien avec tout le monde. On a de bons joueurs, voilà, j'espère qu'on va vite monter et voilà, pour être au top.
La révolution des gauchers, tu mentionnais les un peu plus vieux, et je sais ce que c'est parce que j'ai quasiment le même âge qu'eux, les Joe, les Gaël, les Richard. Tu le disais, vous vous croisez, vous discutez, il y a une passation un peu de savoir entre vous.
Ouais, ils ont toujours été ouverts, voilà. J'ai eu la chance de jouer aussi avec Gilles, Nico Mahut, des joueurs comme ça. Et voilà, c'est des joueurs qui sont ouverts à la discussion et qui sont aussi là pour nous aider. Donc c'est sympa parce qu'on sent que ça les intéresse et qu'il y a un retour. Donc pour nous, en tant que jeunes joueurs, avoir leur expérience, c'est top pour nous. Et voilà, j'ai la chance de pouvoir jouer avec des joueurs comme ça, même avec un joueur comme Hugo, même si c'est mon pote, voilà, aussi on échange beaucoup et voilà, ça nous fait progresser, donc c'est des bons moments.
Il y a une question que je pose à tous mes invités dans cette émission, c'est, je disais que le calme te caractérise, mais il doit y avoir un feu, il y a toujours un feu intérieur, une petite rage. J'aime bien savoir d'où elle vient, cette rage.
Il faut un minimum de rage pour gagner les matchs. Donc voilà, rester calme pour être lucide, pour être calme sur le terrain, pour pas user son énergie pour rien. Mais avoir cette rage pour gagner, voilà, ça m'arrive même peut-être des fois un peu trop, si je peux le dire, de m'énerver, on va dire. Ça m'arrive de m'énerver, péter des câbles, mais voilà, je travaille beaucoup sur ça et ça m'aide. Mais voilà, il y a forcément un petit peu de rage parce qu'on est des compétiteurs et des joueurs, parce qu'on n'a pas envie de perdre, donc on s'accroche jusqu'au dernier point.
Je viens de penser à une question pour pendant ce moment, voilà, où tu es passé de l'anonymat à la célébrité en 2 semaines avec Roland Garros. Quelle est la personnalité la plus connue qui t'a envoyé un message de félicitations?
Franchement, je sais pas. Il y a, non, il y a beaucoup de personnes qui m'ont envoyé des messages. Franchement, en français tennis, on va dire, beaucoup de joueurs m'ont envoyé des ouais. messages pour féliciter. Donc vraiment, vraiment très sympa. C'était cool. Mais après, personnalité connue. Il y a Kev Adams. J'ai reçu pas mal de messages. Ben, j'ai pas pu répondre à tout le monde. Non, c'était vraiment top. J'ai vraiment eu beaucoup de messages et c'est après coup que je me suis rendu compte que j'avais fait vraiment un super truc. Quoi, parce que voilà, j'ai été vraiment beaucoup sollicité, que ce soit des gens qui m'envoient des messages pour me féliciter ou les médias. Mais ouais, c'était sympa. Mais en dire un comme ça, c'est compliqué.
En fait, je voulais te parler de ça parce que tu es un joueur d'une génération plus jeune. Il y a les réseaux sociaux à gérer. Et toi, voilà, tu as maintenant beaucoup de followers, notamment sur Instagram. Et donc, du coup, les gens peuvent t'écrire directement. C'est quelque chose qui est dur à gérer. Comment tu l'appréhendes?
Non, plutôt bien. Ça me fait rire. Je trouve ça marrant, voilà, parce que voilà, avant Roland, j'étais peut-être à 6000 abonnés. Maintenant, je suis à 130, peut-être, je sais pas trop. Mais franchement, je le vis plutôt bien. Je prends ça comme un pour. Des fois, ça peut être contraignant, mais moi, je vois ça plutôt bien. Voilà, les gens me suivent et c'est plutôt sympa. J'espère qu'ils s'éclatent aussi en visionnant mon profil. Mais non, c'est des bons moments. Après, forcément, il y a toujours quelques personnes qui sont là pour dire le contraire ou dire des choses qui ne sont pas toujours cool. Mais voilà, c'est comme ça. J'ai plutôt toujours bien vécu et je ne me laisse pas vraiment embarquer par ça. Quoi.
Ok. J'ai une autre question d'un tweetos, question de Solitaris. Quel est ton programme de début de saison?
Alors, mercredi, je vais partir à l'Open d'Australie, pour les qualifs, donc à Doha.
À Doha, ouais.
Et les qualifs se font à Doha. Le tableau des qualifs commence dimanche. Voilà, ça dure 4 jours et voilà, l'objectif c'est de se qualifier forcément. Je vais tout donner. On verra bien ce que ça va donner et puis ensuite on sait pas trop. Je me suis inscrit sur plusieurs tournois mais je sais pas encore où je vais aller. Ça va aussi dépendre de l'Australie si je me qualifie ou non pour ma programmation. Donc voilà. Déjà je me concentre sur Doha, les qualifs et puis après on verra le programme.
C'est bizarre de jouer les qualifs de l'Open d'Australie à Doha, non?
Ouais, c'est toujours bizarre. Encore tout à l'heure, on parlait de ça avec Marc et on se disait, dans même pas une semaine, j'ai joué mon premier tour de qualif à Doha en Grand Chelem. Donc forcément, c'est amusant. Mais voilà, comme j'ai dit, on a la chance de pouvoir jouer. Et voilà, on va jouer. Si on se qualifie, on ira en Australie. Donc si je veux aller en Australie, il faut gagner.
Est-ce que c'est contraignant ce qu'ils ont mis en place pour vous, les joueurs, c'est notamment à Doha, pour pouvoir participer à cette Open d'Australie?
Non, pas tant que ça. Déjà, il n'y a pas de quarantaine. Il faut qu'on fasse attention. On s'est fait tester aujourd'hui, d'ailleurs, pour pouvoir prendre l'avion. Après, on va se refaire tester en arrivant et je ne sais pas si on va être mis en quarantaine, en quarantaine en attendant notre premier résultat, je ne sais pas trop, mais voilà, c'est à nous de faire attention et on verra bien comment ça va se passer sur place.
On va arriver dans la dernière partie de l'émission où on aborde un peu plus le côté humain des choses. Tu es un jeune homme de 20 ans aussi, en plus d'un joueur de tennis. C'est qui le jeune homme, Hugo Gaston? Qu'est-ce qu'il aime? Est-ce qu'il est amoureux? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie?
Non, ben moi je suis un peu comme sur le terrain, je suis quelqu'un qui me prend pas vraiment la tête, qui rigole, qui pense à autre chose. Quand je suis en vacances ou quoi, si on me met un match de tennis sous les yeux, je vais pas le regarder parce que voilà, je joue beaucoup et c'est des j'ai envie de couper du tennis parce que c'est aussi important de couper. Après, je regarde beaucoup les autres sports. parce que j'adore ça. J'essaye de voir mes potes aussi, profiter de ma famille, parce que ben on se déplace beaucoup, donc on n'a pas vraiment le temps de se voir.
Quels autres sports?
Ben, j'aime beaucoup le foot, le rugby. Voilà, c'est des sports que je regarde beaucoup.
Toulouse FC, Stade Toulousain.
Ouais, c'est ça. C'est ça, voilà. Non, je les supporte, voilà. On peut parler du foot maintenant parce que ça va un petit peu mieux que l'année dernière. Mais ouais, vraiment, je les suis et je prends du plaisir à regarder les autres sports. Et puis voilà, essayer de faire des foot avec mes potes. Enfin, voilà, faire plein de choses, mais couper avec du tennis.
Tu disais, à côté aussi, passer du temps avec ta famille. Tu es loin de tes proches, quasiment 30 semaines par an, 35 semaines par an.
Ouais, c'est ça. Je suis loin de mes parents, bah, de mon frère aussi, parce que j'ai un frère. Donc, forcément, quand je rentre ou quand je suis en vacances, des fois, j'ai envie de rester à la maison, même si je fais rien. Pour moi, je suis en vacances, parce qu'on voyage toute l'année. Donc, partir à l'autre bout du monde en vacances, c'est pas vraiment mon truc. Voilà, j'ai envie de rester chez moi, profiter de ma famille, de mes potes, et puis voilà, me reposer.
Le joueur de tennis, il est seul sur le terrain. Tu te disais, tu pars longtemps souvent. Est-ce que tu te sens seul parfois?
Non, parce que bah, j'ai toujours bah, ma famille qui est derrière moi, même si on ne s'écrit pas tous les jours. Je sais qu'ils sont à fond avec moi. Après, bah, mine de rien, j'ai aussi mon entraîneur. Voilà, c'est mon entraîneur, mais c'est une personne bah, que je vois beaucoup, beaucoup. Donc voilà, c'est un peu plus qu'un entraîneur, on va dire. Donc vraiment non, je le vis très bien. Après, ça demande des sacrifices, mais voilà, je l'ai accepté dès le départ et c'est des bons moments à faire, donc c'est cool.
Marc, pour toi, tu disais c'est ton coach, c'est un peu plus, c'est quoi? C'est un très bah, grand
non, mais
père, c'est un second père, c'est
ouais, c'est quand même bah, on va dire un second père, parce que bah, je le vois bah, presque plus que mon père, on va dire. Donc voilà, on a intérêt à bien s'entendre. Et puis voilà, avec Marc, on parle pas que tennis non plus. Voilà, il adore le foot, le rugby, donc on peut parler d'autres choses. Et puis voilà, ça nous fait aussi décompresser avec le tennis.
On est dans une période de vœux, de début d'année, de début de saison 2021. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter?
Bah, déjà la santé, voilà, parce qu'on est dans une période très compliquée, donc déjà être en bonne santé, et puis après bah, essayer d'atteindre mes objectifs et puis donner le maximum sur le terrain, m'éclater un maximum pour être performant, mais voilà, essayer d'être en forme, pas me blesser, et voilà, tout donner pour pas avoir de regrets à la fin de l'année.
Et qu'est-ce que tu souhaites au tennis français en général?
Bah, beaucoup de victoires. Beaucoup de victoires, forcément. J'espère qu'il y a beaucoup de Français qui vont gagner des titres cette année. Voilà, ça va être compliqué parce qu'il y a de très bons joueurs. Mais voilà, on a de très bons joueurs en France aussi. Donc, j'espère qu'on va faire une très belle saison. Et puis voilà, essayer de performer sur les gros tournois. Et à nous de faire le job.
En tout cas, nous, on te souhaite le meilleur. Je te remercie, on te remercie encore de nous avoir fait vibrer à Roland-Garros. On a hâte de t'y retrouver cette saison. Je te souhaite le meilleur pour cette saison 2021. Salut Hugo.
Merci beaucoup, salut.
Commencer 2021 avec la révélation de l'année 2020, ça avait du sens pour moi. Souhaitons que son ascension continue. Souhaitons-nous aussi une saison de tennis un peu plus normale et le retour du public dans les stades. Encore merci pour vos commentaires et votre soutien. Sachez que je lis tout. Si vous voulez plus de contenu sur notre sport, abonnez-vous aux pages Instagram et Facebook de l'émission. Continuez de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Merci à Adrien Noël et Laurent Aquenin au Studio Laude. Je vous souhaite tout le meilleur pour cette nouvelle année. À très bientôt pour un prochain épisode d'échange. Et d'ici là, eh bien, prenez soin de vous.
Sometimes the transition to fall and winter feels like experiencing every season on the same day. The shoes in the Allbirds Mizzle collection were made for misty morning walks, surprise snow days, and anything a trip to the dog park might bring. The whole collection brings together water-repellent technology and classic style, so you can stay warm, dry, and comfy during your everyday adventures. Check off your errands with the Wool Runner Mizzle. dash through cold and wet weather with the Wool Dasher Mizzle. Or upgrade to next-level protection with the Wool Runner-Up Mizzle Plus. Go to allbirds.com and use code FRESHSOCKS for a free pair of socks with your purchase. ALLBIRDS.com, code FRESHSOCKS.